de Marthe Robin, unie à toute l'Église. Nous sommes introduits à l'intérieur de ce que vit le Christ dans sa propre prière. Et là, sa souffrance nous envahit et nous souffrons de la souffrance du Christ lui-même. C'est lorsque nous sommes unis à l'Église que nous pouvons vivre cette vie de souffrance du Christ. Parce que dans cette unité avec l'Église, cette souffrance nous introduit dans l'incorporation substantielle en Marie corédemptrice. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Quel divin enrichissement. Je le proclame de partout, dans ce que j'en vis. Quel enrichissement l'âme reçoit de cette manière, étant susceptible d'éprouver à égalité toute la valeur surnaturelle de l'unité rédemptrice, de la double immolation du Christ, qui est la même que celle du chrétien en lui et de lui dans le chrétien, à tous ceux susceptibles de comprendre la valeur surnaturelle d'une vie d'amour vécue en Dieu. Ce sont les battants qui se déchirent et qui ouvrent une porte aux splendides perspectives de ce que donne la souffrance rédemptrice et sanctifiante, la passion de Jésus se répandant en nous et nous en elle. C'est dans cette unité à toute l'Église que nous pouvons trouver cette grâce, cette vie, et éprouver la gloire du Père lorsque nous la vivons dans l'unité vivante et éprouvée, dans une soif qui approche la mort elle-même pour le salut de toutes les âmes avec qui nous sommes unis surnaturellement dans le Christ pour qu'il soit sauvé, ce sont nos frères. Ce sont tous nos frères. Quand lui, dans sa souffrance, c'est celle qui nous envoyait nous-mêmes dans une unique souffrance, comme Marie elle-même l'a vécu en entier, que tous ceux sur lesquels, en vertu ces liens mystérieux, mais réels et très profonds, du corps mystique, l'humanité tout entière devient un lien mystérieux et qui ne l'est plus. Car cette souffrance, elle n'est pas mystérieuse, elle est réelle. Mais en elle, nous avons sûrement une influence effective, intime, unitive, par le rayonnement tout divin de cette prière vivante aimante de la compassion. Joyeusement accueillie. C'est une souffrance vécue avec une telle joie pour en avoir été choisie que le Saint-Esprit nous-mêmes nous donne de l'offrir et de sanctifier par lui et par elle, pardon, la souffrance, un oui d'amour total. Et de compassion totale, d'amour et parfaitement pur à la volonté du Père dans le Christ Jésus, en la sagesse de la croix. C'est une grâce que seul Jésus peut nous donner. Et elle se donne avec cette souffrance vécue sans voile, la sienne dans la nôtre et la nôtre dans la sienne. Parce que c'est la même souffrance lorsqu'elle est vécue dans l'unité de l'Église tout entière et en offrande. cœur de l'homme se mesure, parce qu'il y a bien une mesure, à la cruauté dont le Christ entier est victime. Ce livre dans une allégresse sans pareil, dans l'accueil qu'il fait à la souffrance, lorsque cette souffrance est absolue. Le cœur de l'homme trouve cette mesure-là, parce que l'accueil de la souffrance est à l'intérieur de l'homme l'empreinte d'une autre que lui. Même quand elle sort de nous pour rentrer avec son aiguillon pénétrant, parce que notre conscience d'amour en éprouve, c'est toujours malgré le souhait spontané et l'élan primitif de la plénitude du vouloir éternel de Dieu dans la sagesse de la croix partagée. Ce partage, c'est l'Église elle-même dans son unité, qui donne à quelques-uns d'avoir l'allégresse de pouvoir s'y produire. Quelques prévus, disons par anticipation, qu'elle soit si résignée d'avance qu'on souffre à ses coups, si avide qu'on soit de pouvoir souffrir avec lui la même souffrance que lui, si épris qu'on puisse être de son charme austère, vivifiant la nature humaine tout entière, dans les joies de la grâce, dans son accomplissement victorieux, la demeure et la mesure de sa demeure. Je parle ici de la souffrance co-rédemptrice qui envahit toute notre chair, notre sang, notre âme avec la sienne. Tout aussi épris qu'on puisse être de son charme austère et vivifiant, cette croix vécue. N'en demeure pas moins une étrangère. Elle est toujours autre que celle à laquelle on s'attendait. Autre que celle à laquelle on se livrait d'avance. Et contre toute notre attente, celui-même qui l'affronte, la désire, l'aime, la reçoit pour s'y produire plus profondément encore, comme Jésus n'a jamais cessé de s'y produire plus profondément à chaque coup, ne peut en même temps s'empêcher de trembler à son approche. Car le mystère de la croix n'est pas un mystère, parce que la souffrance tue l'âme unie au Christ crucifié, condamné, broyé, humilié, écrasé. Ce que nous sommes, nous en éprouvons quelque chose qui est bien réel. Voilà pourquoi elle nous révèle que notre liberté et notre raison soit scandalisée. Parce que la souffrance veut ce que nous ne voulons pas. Et pour vouloir tout ce que nous sommes, tout ce que nous devons être, dans cette vie d'union et de disparition, pour la victoire de la grâce, qui en découle pour la disparition de toutes les formes de souffrance, quelles qu'elles soient, il faut que nous comprenions que nous avons été choisis pour accepter sa leçon. Nous suivons le Christ pas à pas, dans la souffrance qui est la sienne lorsqu'elle se répand en nous, sans séparation de la sienne, et comme elle. sommes heureux dans la béatitude, de s'y plonger et d'en pâtir librement. Comme le grain de froment qui doit mourir, en sachant que de là jaillira la plénitude des joies de la terre tout entière, qui n'a pas souffert sur cette terre de cette manière-là, qui n'a pas connu cette souffrance partagée là, dans une unité sans séparation. Celui qui elle n'aime pas. Celui qui ne se laisse pas révéler à ce qui échappe à la connaissance et à la volonté égoïste. Si elle n'opère pas cela en nous, dans son divin, dans sa divine surabondance, sans un concours actif et pur de notre part, celui-là n'appuie pas sa vie sur le roc. Tandis que le Christ en nous, vivant cela, le mystère de la compassion, à égalité avec Marie, et elle-même à égalité avec la souffrance du Christ, sont les instruments de la rupture de l'équilibre d'une vie indifférente, inacceptable aux yeux de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et la nature elle-même peut être livrée à cette fécondité éternelle pour glorifier Dieu dans la suppression totale de la mort. C'est ainsi que le vivant, nous comprenons et nous voyons, tout joyeux, que la souffrance n'est pas seulement une épreuve, elle est surtout une preuve, l'unique preuve d'amour qui nous est donnée. D'ailleurs, tant qu'on ne s'est pas abandonné sans réserve, aux folles étreintes de la souffrance se répandant dans le partage de la croix, c'est qu'on n'a pas satisfait ni commencé à satisfaire à la divine jalousie de Dieu. Il nous veut en entier dans son Fils. C'est Marthe qui parle, hein. Marthe Robin. Je ne m'arrêterai pas à donner des détails sur ce qui s'est passé dans les apparences extérieures à l'intérieur du tribunal de Caïphe. Ce serait trop long et bien inutile. La demeure de son trône, de la chambre où il avait établi son autorité pour juger, n'était pas aux alentours de Sion. C'est en tout cas ce que la lumière de Dieu m'a fait voir, puisque j'accompagnais le Christ quand il était traîné devant lui. J'ai oublié, à la mesure intérieure, quantité de choses, en raison de la mesure de la condamnation extérieure qu'il en subissait, dans sa répercussion intérieure que je partageais avec lui, que je dois le dire, je n'ai jamais pu porter d'attention. Grâce à Dieu, par des détails qui ne me paraissaient pas du tout nécessaires à ce que je veux dire par obéissance céleste sur le mystère de la croix partagée avec lui. Je dirai donc seulement en passant que peu avant l'arrivée de Jésus au tribunal de Caïphe, Quand j'ai su avec lui, j'ai vu les deux apôtres Pierre et Jean, revêtus de manteaux de messagers, entrer dans la cour extérieure de ce tribunal. Et je les ai vus assister à ceci. Saint Jean marchait un peu en avant de Saint Pierre. Il put y pénétrer par miracle, sans difficulté, du reste à l'intérieur de la salle du tribunal. Sans vraiment se faire voir, et en raison d'un employé du tribunal qu'il connaissait, il passa par une porte latérale et privée, laquelle porte se referma sur eux, laissant Saint-Pierre seul de l'autre côté. Ainsi, Jean a pu assister seul, directement. La foule était déjà si compacte à l'intérieur du tribunal, et la cour de l'autre côté de la porte était tellement bondée de gens, de toute espèce, qu'on ne voulait plus admettre personne. C'est pourquoi le malheureux Pierre, qui s'était attardé ne serait-ce que quelques secondes, mais c'était trop, à parler à quelques personnes de sa connaissance, eut la malchance, enfin le malheur, de trouver porte close. Jean lui-même a été seul choisi pour partager dans l'unité d'une souffrance un disciple et totale d'humiliation et d'écrasement ce qui s'est passé là. Caïphe était, voici donc Jean, mais, il y avait aussi Nicodème et Joseph d'Arimathie qui venaient d'arriver. Ils purent se glisser silencieusement au milieu de la foule qui encombrait le vestibule de la grande salle du tribunal. Mais de cet endroit-là, on pouvait voir de quelques mètres seulement les juges. Caïphe était déjà assis triomphalement sur son trône, au milieu d'une haute et très large estrade en bois, sculptée, décorée, ayant autour de lui les nombreux membres du conseil. C'est là qu'allait bientôt se déroulait la scène la plus odieuse de la Passion du Christ. La parodie judiciaire devant laquelle, par décret du grand prêtre Caïphe, Jésus comparaissait. Dieu, le vivant, l'unique, venu dans la chair devant lui. Dans la dignité la plus parfaite, sa divine innocence. Caïphe était un personnage d'apparence imposante, l'air grave. Il était plus grand que Anne. Son visage, sans bonté visible, était en cet instant où allait apparaître devant lui Jésus, enflammé par une colère à un disciple, et ses yeux étaient menaçants. Ses traits ordinairement très durs et sans finesse étaient à cette heure effrayants à voir, presque insupportables à regarder, tellement la haine exaspérait, laissant déborder son âme dans l'insupportable. Il portait un somptueux manteau de cour avec une grande traîne d'un rouge éclatant, orné de fleurs d'or et de franges d'or aussi, Un or qui n'était pas pur. Parce qu'il était terni par une fermeté à la hauteur de son orgueil et de sa haine dans la poitrine. Sa coiffure ressemblait un peu à la mitre d'un évêque, toute parée de perles et de pierres précieuses, ainsi que l'énorme agrafe de son manteau. Caïphe attendait déjà depuis un moment, avec tous les divers adhérents du Grand Conseil, dont plusieurs étaient restés depuis que Judas était sorti, avec les soldats et les archers. Ainsi, tous ces adhérents du Grand Conseil devant cette infusion de haine insupportable à voir perdaient toute contenance et s'effaçaient devant lui. La rage du grand prêtre était tellement grande qu'oubliant un moment sa haute dignité de prêtre, de représentant de Dieu, dont il était cependant si fier, il descendit précipitamment de son trône dans son grand costume de juge. Et un but de la dignité qui était la sienne, impatient de lui faire accomplir tout ce qu'il pouvait en concevoir d'horreur pour le Messie d'Israël. On le vit courir dans le vestibule et demander devant toute la foule assemblée autour de lui comment il se faisait que le Galiléen n'arrivait pas encore. Après plusieurs séances de ce curieux manège, il vit enfin le cortège qui approchait. Il ne s'aperçut pas. Il était ridicule, comme l'orgueil ridiculise celui qui l'a fait déborder. Il retourna majestueusement sa toire sur son trône. De chaque côté de lui se tenaient les fonctionnaires publics, durs, les plus cruels qu'il ait trouvés, mais aussi les anciens du peuple, c'est-à-dire les chefs des princes, des prêtres, les chefs du sacerdoce, qui pendant deux dernières années avaient accumulé haine sur haine contre le Christ Jésus, comprenant pourtant qu'il était le Messie. Tout derrière eux se tenaient les accusateurs et les faux témoins, chacun à sa place. Représentait le pouvoir national, la science nationale, la richesse nationale. Et enfin, il y avait aussi des soldats très nombreux, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, qui étaient rangés depuis le bas de l'estrade jusqu'à la porte du vestibule par laquelle on allait introduire Jésus dans la salle. Et bien Jésus entra dans le vestibule. Et aussitôt, il y eut des clameurs du peuple, avec des affreuses bousculades de ses bourreaux. Mais le tumulte cessa aussitôt que Jésus parut devant ses juges dans la pièce elle-même. Et on n'entendit bientôt plus que le murmure des voix et le chuchotement des faux témoins, qui osaient à peine échanger leurs mensonges, en se concertant entre eux au sujet de Jésus, pour pouvoir l'accuser. Comme il passait tout près de celui qui aimait, et Pierre aussi qui avait pu s'approcher à l'occasion de l'ouverture de la porte, à cet instant, le Seigneur les regarda. Passait tout près d'eux. Il les regarda avec amour, mais sans tourner la tête vers eux, hein, et sans leur sourire de peur de les trahir. À peine Jésus était-il arrivé devant le conseil, le caïphe, fait éclater son impatience. Et aussitôt il lui dit haute voix, ah te voilà, ennemi de Dieu, suppôt du diable qui trouble pour nous cette nuit si sainte. Les accusations que les soldats qui l'accompagnèrent, en le bousculant et en le frappant, furent aussitôt détachées du sceptre dérisoire mis dans les mains de Jésus et remis à Caïphe. Caïphe, après l'avoir lu, se répandit en toute espèce d'invectives, d'injures à l'adresse du sauveur du monde. Et lui recevait ces invectives dans le fond de son cœur, hein, qui le déchirait. Car c'était bien son peuple qui parlait à travers lui. En signe d'approbation au cynique pontife, des mains et des bâtons s'abattaient violemment sur Jésus, qui, loin de se dérober à leur brutalité indescriptible, devant lui, priait en silence pour qu'il soit sauvé. On le poussait avec les poings, et même avec des bâtons remplis de ferrailles et de pointes. On l'injuriait avec des paroles impies. On lui marchait sur les pieds qu'on écrasait autant qu'on pouvait. Et on le giflait avec une violence inouïe, en disant, mais réponds, puisqu'on te parle. Ouvre au moins la bouche. Tu n'es plus capable de parler maintenant. Toi qui depuis plus de 3 ans séduis les foules avec tes discours inventé. Caïphe, avec encore plus d'emportement que l'avait fait Hérodéan, pressait Jésus toute espèce de questions, sans lui laisser le temps même d'y répondre. Mais Jésus restait muet, calme, dans une paix divine qui transparaissait, malgré qu'il fût obligé de baisser les yeux sans rien dire. Parce que, en le voyant ainsi, les archers, toujours pleins de zèle pour le mal, imaginèrent toute espèce d'astuces pour l'obliger à parler, mais il ne put y réussir, même par les plus odieuses menaces et les ruses les plus raffinées. Voyant au contraire qu'on ne pouvait rien lui tirer et qu'on ne gagnait rien à multiplier les questions, la haine de Caïphe devint satanique. Et ce fut la haine, Satan lui-même, s'acharnant sur celui par qui on vit commencer l'audition des témoins. Caïphe était très énervé. Lorsque la populace, excitée par ses ennemis, lançait des clameurs horribles ou les dépositions des plus grands ennemis du Seigneur, parmi les pharisiens et sadducéens, toutes les paraboles qui étaient rapportées sur ces 3 ans dans lesquels ils avaient été communiqués au peuple jusqu'au Sanhédrin lui-même, toutes ces paroles étaient entièrement retournées, dénaturées, présentées comme des crimes contre la loi d'amour de Dieu. Mais Jésus, lui, restait silencieux. Il souffrait d'une souffrance bien réelle, mais il attendait la souffrance maximale. C'est pourquoi il ne disait toujours rien. Humblement, il attendait la question capitale, celle sur laquelle il a choisi d'être mis à mort, dans une mort d'abord intérieure, broyé par la souffrance du choix de Dieu qu'il y avait livré. Et cette question, elle devait tomber de la bouche la plus cruelle de toute la terre. Parmi les choisis de Dieu, du peuple qu'il avait façonné, pour que s'opère la rédemption du monde. Caïphe était très énervé et vivement anxieux sur tous ces dépositeurs qui se contredisaient sans s'arrêter et s'embarrassaient à chaque instant dans leurs discours. Mais l'un disait, il se donne comme roi au peuple qui croit en lui. Non, l'autre disait pas du tout, il se laisse appeler ainsi. Mais lorsqu'on a voulu le proclamer roi, il s'est enfui par peur. Il dit qu'il est fils de Dieu et l'autre rajoutait, non, il se nomme fils parce qu'il a compris ce qu'il dit être la volonté de celui qu'il présente comme son père. Les autres témoignaient avec rage qu'ils avaient été guéris par lui. Mais par mensonge, il disait qu'ils étaient retombés malades parce que c'était un sorcier. On débitait ainsi toutes sortes de mensonges, d'accusations contradictoires. Par exemple, sur la guérison de l'homme de la piscine de Bethesda. Tous, sans exception, l'accusaient de sorcellerie. Même le jeune homme riche de Nazareth était là. Lui qui n'avait pas voulu, que Jésus n'avait pas voulu garder pour disciple, il était là, maintenant dans sa bassesse, pour témoigner contre lui. Quelques-uns dirent encore que il avait mangé la Pâque la veille, ce qui était contraire à la Torah, comme si il avait autorité pour changer les préceptes de la Torah elle-même, ajoutant même qu'il avait apporté des changements à la célébration de cette cérémonie du Seder. Cette accusation fut l'occasion de cris terriblement aigus et unanimes dans la foule qui était autour de lui et qui justifiait de nouveaux coups par derrière et sur ses lèvres avec des gants de fer. Mais les témoins s'étaient encore tellement contredits que dans cette dernière déposition que Caïphe en était honteux. Leur mensonge était bien difficile à camoufler. Et ils se montraient très irrités de ce que pas un n'était capable de déposer un témoignage qui eût quelque valeur pour sa crucifixion. Pour sa mise à mort et pour sa condamnation. Après un grand nombre de dépositions aussi ignobles, qui chaque fois frappaient de l'intérieur comme pour déchirer sa chair, Jésus lui-même, beaucoup plus douloureusement que les coups qu'il en recevait à l'extérieur, aussi parfaitement odieuses que stupides de toutes ces accusations, il se leva enfin. Il s'enleva enfin d'eux qui dirent, cet homme a dit, je renverserai le temple bâti de main d'homme et j'en rebâtirai un autre en 3 jours. divine sera pas faite de main d'homme, puisque c'est moi qui le bâtirai. À cause encore de ceci, n'était pas d'accord sur ses paroles. L'un disait ceci, l'autre cela. Là où il s'accordait, c'est qu'il voulait un nouvel édifice, parce qu'il voulait abolir l'ancien temple et contribuer à ce qu'il soit détruit. Mais l'autre disait que non, cet édifice n'était pas nouveau, qu'il était bâti de main d'homme, et que par conséquent, il n'avait peut-être pas entendu parler de cela. Mais c'était pourtant son intention. Caïphe était fou de colère et d'indignation. Et la honte se lisait sur son fier et orgueilleux visage, car les cruautés infligées à Jésus depuis qu'il était devant lui, les absurdes dépositions contradictoires des témoins qui n'arrivaient jamais à s'entendre sur aucun point exactement, formaient un tel contraste avec l'attitude calme, pacifique, recueillie et divine, et produisait une telle impression sur une partie de l'assistance. Depuis une heure, elle se produisait entre eux, au milieu des coups continuels qu'ils recevaient. D'autant que Nicodème et Joseph d'Arimathie avaient aussi parlé pour dire que on pouvait peut-être en finir avec cette audience qui ne me dit pas. Le divin silence de Jésus était en effet des plus impressionnants à voir. Au milieu de cette foule délirante, houleuse et sans aucune dignité, s'acharnant ignominieusement sur Jésus, quelques soldats qui étaient un rang en arrière se sentaient tellement touchés par la grâce, la divine paix qui demeurait en lui pour rayonner l'amour et le pardon, se retirèrent sous prétexte de malaise. C'était un prétexte, mais parce qu'ils passaient. Lorsqu'ils sont passés tout près de Jean, de Pierre, ils leur dirent tout bas, le silence de Jésus de Nazaréen, au milieu de toutes ces ignominies, de la foule et des mauvais traitements qu'on lui inflige, déchire le cœur, c'est pourquoi nous partons. Dites-nous où il faut aller. Et les apôtres de Jésus, craignant surtout d'être reconnus par quelques-uns des ennemis de Jésus, répondirent assez évasivement, si la vérité vous appelle, laissez-vous conduire par elle. Et ne vous inquiétez de rien, parce que vous assistez à la souffrance de la volonté de Dieu lui-même. C'est la vérité qui vous appelle à vous y introduire vous-même avec nous et avec lui. Oh, Seigneur, Caïphe, qui avait été poussé à bout par le discours contradictoire, se leva de son siège. Il descendit dans la plus grande profondeur, en quelques marches de son estrade de juge, pour proférer et dire sèchement à Jésus, en se plaçant visage tout près de son visage, « Tu ne réponds rien à ce témoignage. » Mais Jésus ne releva même pas la tête. À bout de colère et de fureur, dans son orgueil, transformé en haine sans aucune limite, profondeur, de largeur et de cruauté. Caïphe, voyant que Jésus ne le regardait même pas, cria en disant dans un esprit de vengeance sur un ton d'autorité et d'une voix impérieuse, en articulant bien chaque mot, « Je t'adjure par le Dieu vivant, par le Dieu saint, par le Dieu vrai, de nous dire si tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Les cieux s'ouvrirent à cet instant, attentifs à cette solennelle demande qui se faisait au nom du Dieu vivant, et pour écouter, recevoir et emporter en eux avec gravité la divine réponse de Jésus, le Christ, le Fils unique de Dieu et Dieu vivant comme lui avant tous les siècles. Cette fois, l'histoire de Dieu vivant au milieu de nous dans le Christ arrivait à son point central et culminant. Un grave silence règne maintenant dans la salle. Jésus, fortifié par son Père, va proclamer pour la première fois en public sa divine royauté, que sa divine royauté est une royauté d'amour éternel. Il relève alors seulement là, lentement, la tête vers le visage tout proche de son interlocuteur. Et il dit, d'une voix pleine de suprême majesté et avec un accent que je vous avoue être totalement inexprimable, avec la voix qui était plus celle du Verbe éternel de Dieu que celle du Christ dans son onction royale. Il dit de cette voix pleine de majesté divine, rendu alors visible, tu lui l'as dit. Je le suis. Et je vous le dis que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père de la puissance divine. Vous le verrez venir sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Tout le monde comprit que il proclamait que tous ceux qui étaient là jusqu'à la fin du monde verront que Jésus leur avait dit la vérité. Vous me jugez maintenant, mais c'est moi qui vous jugerai. Tous. En ce jour-là, il y avait dans le ton de sa voix quelque chose de tellement grand, de tellement pur, tellement beau, de si ferme en même temps, et si persuasif et tellement imposant, que Caïphe recula en frissonnant, malgré lui. C'est à ce moment également, à ce moment, que s'affirme par la déclaration qu'il vient de faire son titre Fils unique de Dieu, de juge universel du monde, que Jésus revendiqua à travers des lèvres déjà broyées par les coups, qu'il revendiquait son pouvoir divin sur l'humanité, que lui-même régénère en ce grand jour de sa vie, en cet instant, ici-bas, d'une manière la plus féconde, la plus belle, la plus grande, la plus souffrante, la plus sainte et la plus divine de tous. Comment pourrais-je transmettre ce que j'en ai vécu avec lui et lui en nous, en la Vierge elle-même, souffrant la même souffrance que lui à l'intérieur d'elle-même? Comment dire toute l'ampleur, toute la profondeur, toute la hauteur des choses que j'y découvre en mon âme, à ce seul nom de Dieu. Seigneur, vous êtes l'être, le seul être par essence, l'être éternel parfait, l'être sans borne, sans changement, l'être divin, dont tout dépend, et qui ne dépend de personne ni de rien. Vous êtes la source, le centre et la fin de tout ce que, de tout ce qui existe, et de tout ce qui peut exister en vous uniquement, ici-bas comme au ciel. Vous êtes l'amour éternel et la vie éternelle. Vous êtes la science éternelle et la sagesse éternelle. Aucune existence qui ne dépende de vous. Aucune créature qui ne soit une participation de vous-même. C'est-à-dire une présence réelle et sans voile de votre être éternel et divin. Un reflet de vous-même et de votre divinité d'amour qui transparut à cet instant-là. Et qui fit reculer et frissonner de terreur ceux qui allaient vous bannir dans un jugement d'une cruauté inouïe. Il n'est rien qui ne soit divin que par vous, puisque tout vient de vous, ô mon Dieu. Dieu d'amour, il n'y a rien dans la nature ni dans vos créatures qui n'ait été voulu et fait par vous. Rien. Tout est grand, tout est saint, tout est beau, tout est pur et divin. Voilà ce qui s'y laisse entrevoir aujourd'hui, en cet instant. Tout est inscrit dans le vouloir éternel de l'amour éternel de Dieu, qui veut recréer toute chose dans la perfection de ce qu'il est. Dieu tellement aimait le monde . Il a tellement aimé les hommes qu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils unique de cette manière pour sauver tous les hommes, qui le mettaient ainsi à mort sans hésiter, pour les sauver de l'enfer dans lequel ils se précipitaient délibérément jusqu'au fond de la liberté totale contre Dieu et contre lui. Oui, le Dieu, le Père, a tellement aimé tous ses enfants. C'est ce qui fut sa plus grande souffrance. Les hommes, chefs-d'œuvre de ses mains divines et son éternelle justice, ne voulant être vengés et ne pouvant être vengés que par la mort de Dieu lui-même, il a donné son Fils, son unique. C'est Dieu le Père. C'est l'amour éternel de Dieu le Père et infini comme lui, qui établit la paix en tous ceux en qui il venait apaiser la colère divine. Je passe quelques pages. Il y a 40 pages pour votre caïf. Après cette immense grâce d'amour, cette ravissante et sublime extase, cet instant sublime qui ne durera que quelques secondes, reprise immédiatement par la haine Satan qui va en recouvrir les effets. Quelles ne furent pas ma terreur et ma consternation en voyant au-dessus et autour du grand prêtre Caïphe tout l'enfer déchaîné et un immense abîme de feu ouvert sous ses pieds, rempli des plus horribles figures de démons qui s'agitaient, se battaient, se tordaient en d'effroyables contorsions autour de lui, et montaient même jusqu'au cœur dont ils s'emparaient, comme leur appartenant à tout jamais. Puis ils entraient dans sa bouche, l'obligeant à ne proférer que ce qu'ils voulaient, tous avec lui. C'était horrible, impossible même à comprendre qu'on puisse le voir, ce spectacle affreux de l'enfer déchaîné, s'emparant ainsi de Caïphe et ceux qui étaient autour de lui, l'encerclant lui-même, le pressant, l'envahissant de toutes parts. Toute la rage et toute la fureur de tous les démons de l'enfer étaient sur lui, entrés en lui, si bien qu'il paraissait n'être lui-même plus qu'un démon furieux, voulant détruire, anéantir et faire disparaître l'amour infini, ici, maintenant et à jamais. Le véritable agneau de Dieu, il fallait l'anéantir, Il était entre ses mains pour comparaître au jugement inique et pervers, une jalousie folle torturait le cœur. Il poussait, il pensait vouloir en finir avec le Dieu vivant sur la terre. C'était tellement douloureux à voir, et combien poignant de voir la tournure que prenaient les événements et la manière dont ils surabondaient, se surmultipliaient chaque minute, et surtout le déploiement de haine qui se levait de moment en moment, mon doux et bien-aimé sauveur demeurant silencieux au milieu de ce tumulte infernal. Et de cris véritablement épouvantables et de gestes en similitude et de tout leur sarcasme, lui qui aurait pu si facilement les confondre tous d'un seul regard. Mais au lieu de cela, il demeurait tellement miséricordieux à l'infini et tellement plénitude d'amour éternel dans sa prière pour eux que l'édifice ne s'écroula pas. Toute la maison paraissait être changée en une succursale de l'enfer où tous les démons s'étaient rassemblés pour soulever les hommes contre Jésus. Oui, lorsque Jésus ouvrit la bouche solennellement pour déclarer que oui, il était le Messie, qu'il était le Fils unique de Dieu. Bien qu'il se fût déposé entre leurs mains, tout l'enfer en parvint ébranlé. Et j'ai même vu, à cette seconde, les monstrueux démons tressaillir d'effroi au son de sa voix. En entendant ces paroles-là, la terre trembla tout entière. Et ce tremblement frémit sur toute la surface de la terre. Et elle en fut ressentie sur la base qui était la sienne. Et elle gronda intérieurement. Puis, par un retour de haine, comme si l'enfer s'était tout à fait, tout à coup, ressaisi, je vis le démon vomir précipitamment toute sa fureur, exclusivement en ce lieu, en la maison de Caïphe et son jugement. Je voyais la haine et la fureur des démons se manifester sous toutes ses formes possibles, toutes les plus horribles les unes que les autres, et en d'infinies manières qui surgissaient dans tous les sens à la fois. Je voyais beaucoup de ces monstres entrer dans le cœur des assistants qui pourtant n'étaient pas venus pour autre chose que voir, les poussant à agir et s'asseoir avec les ricanements les plus féroces qui sortaient d'eux sans qu'ils puissent les refréner, avec des ricanements féroces sur les épaules, puis entrer finalement en eux, les démons, les rendant fous furieux contre Jésus, qu'ils voulaient faire mourir à tout prix, à tout prix, à tout prix. C'est pourquoi leur fureur allait toujours augmentant et menaçait tout envahir. C'était le sommet de la fureur et de la haine des hommes élus et choisis par la grâce. Mais je vous assure qu'on ne peut pas vraiment exprimer ces choses et encore bien moins les écrire pour en décrire les effets intérieurs de souffrance absolue, dans les épouvantables laideurs qui en envahissaient Jésus. On ne peut pas les décrire, ces souffrances-là que nous vivons avec lui, comme lui les a souffertes, qu'à ceux qui leur sont donnés de pouvoir les souffrir. Et on ne peut pas non plus les décrire parce qu'on ne voudrait pas scandaliser, ni trop épouvanter ceux qui les ignorent ou ceux qui s'en soucient à peine, pour les effleurer de très très loin. Bienheureux du reste sont ceux qui ne voudraient pas croire que ces souffrances furent réelles jusqu'à la substance de celui qui ne pouvait pas en mourir, parce qu'il était le Dieu vivant en lui-même, impossible à faire mourir. Je crois pouvoir dire également, autant que je puisse m'appuyer sur ce que j'ai vu et vécu là, en lui et moi, et lui en moi, toujours renouvelé, plus profondément, chaque fois, que Saint Jean le bien-aimé avait eu lui-même la connaissance de toutes ces horribles manifestations de l'enfer, en lui-même, en communion avec lui. Alors qu'il était avec, là, en présence immergé dans ce vestibule du tribunal qui est devenu le Saint des Saints de la haine de l'enfer éternel. Comme il avait eu connaissance de la sublime intervention du ciel en faveur de Jésus. Du reste, Saint Jean en a parlé aux apôtres et aux disciples après la résurrection. Il n'en avait pas dit un seul mot avant. Tout cela, en tout cas, qui était là, qui n'était pas entièrement corrompu, et qui furent suffisamment nombreux, je crois, succombèrent à la tentation, accueillirent en eux, en leur cœur, avec une terreur singulière, un peu de ce qui se passa à cette heure du ciel et de l'enfer. Les ennemis de Jésus éprouvèrent cela eux-mêmes par un redoublement de haine et de fureur à son égard, qui s'empara d'eux avec une violence inouïe et impossible à décrire. Caïphe, visiblement inspiré par Satan, qui était devenu son maître et le gouvernait, le rendant de plus en plus haineux à l'égard du Messie d'Israël, sachant qui il était, ne se possédant plus, prit le bord de sa tunique, sa belle tunique sacerdotale, et la déchira. Et j'entendis craquer l'étoffe précieuse comme un bruit de crécelle, puis s'écria d'une voix terrifiante, il a blasphémé. Pourquoi avez-vous besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Alors tous les assistants et tous les juges qui étaient là d'une seule voix se levèrent d'un seul bond et crièrent tous ensemble d'une seule voix, d'une voix terrible, que Jésus méritait la mort. C'est un imposteur. Il faut qu'il meure immédiatement. Pour le salut des hommes, il doit mourir. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'était l'aveu de l'enfer lui-même. Ils oubliaient que l'épreuve est un temps de recueillement, de réflexion, de purification, de communion et de grâce qu'il faut offrir en l'offrant lui-même et nous-mêmes avec lui au bon Dieu d'amour pour le glorifier. Et que cette participation, cette co-rédemption et cette compassion constituent toujours, dans quelconque souffrance, une visite de Jésus, un sacrement d'amour révélé à celui qui la reçoit. Ils ne doivent pas oublier cela, que chaque membre vivant du Christ vivant doit achever en lui ce qui manque à la passion du Christ pour le corps entier, l'humanité tout, sauvée par lui. Ah, comme les souffrances et les peines que Dieu nous envoie le glorifient dans son amour. C'est cet autre abîme qui s'y dévoile et s'ouvre devant nous. C'est le bienfait de la souffrance qui déchire tout, pour y faire pénétrer. Dans leur esprit présente son cœur divin, rempli de joie profonde, divine et éternelle, en vivant cette condamnation et cette mort souhaitée par l'enfer et les hommes. Quand on aime Dieu, on aime aussi tout ce qui vient de Dieu et tout ce qu'il nous demande et tout ce qu'il attend. C'est dans cette condamnation, dans cette souffrance et dans cette croix qui le broie tout entier et nous avec lui, qui devient avec nous comme un père avec son enfant, puisque nous partageons sa souffrance comme étant sa vie, et il devient notre père là. C'est là qu'il nous prépare à recevoir l'héritage céleste qui nous a acquis par ses souffrances et par son sang. Mais pour entendre cela, il faut être attentif au son de sa voix. Car lui, qui a voulu le silence de la nuit pour naître, vivait cela depuis sa conception, dans le silence d'une maison obscure, dans le silence des cimes pour prier, dans le silence des campagnes pour prêcher, dans le silence de chaque cœur pour s'y engloutir et agir ainsi, avec cet amour là, écrasé, pour que il y règne par la croix et qu'il puisse opérer les merveilles étonnantes de son amour universellement. Bref, l'enfer était au comble de la joie et de la fureur. Les choses étaient telles qu'on aurait dit que les ténèbres célébraient pour un moment leur triomphe sur la lumière. Tous les assistants, chez lesquels persistaient encore quelques sentiments de distance, furent remplis d'une telle horreur que plusieurs se voilèrent la face et réussirent à s'enfuir en disant « Malheur à nous, c'est nous qui faisons cela. » Et ils s'enfuyaient pour fuir la vérité. Les plus dignes parmi les témoins quittèrent l'audience. Où il n'était plus nécessaire avec une âme qui fuyait dans la perdition elle-même. Les autres, c'est-à-dire les accusateurs les plus acharnés de Jésus, se pressèrent autour du feu où on leur donna de l'argent. On les arrosa de cet argent pour qu'ils puissent manger et boire sans raison et dans l'ivresse, accentuer leurs ignominies. Jésus est seul désormais. Caïphe, en effet, dit alors aux archers, « Je vous livre cet homme. Rendez aux blasphémateurs les honneurs qu'il mérite, puis se retira. » Et pourtant, devant lui, puisqu'il était à peine séparé d'un voile, Jésus se trouva seul désormais entre les mains et devant lui, Caïphe. Il entendait ses soupirs et ses coups. Jésus est entre les mains de ses bourreaux, qui surmultipliaient ce que Caïphe aurait voulu faire lui-même de ses propres mains des centaines de fois. Tous les siens l'ont abandonné. L'amour de ses apôtres n'est cependant pas éteint. Mais la peur les a tellement envahis en leur cœur, et qu'ils ont fuir devant le danger, de ne pouvoir le supporter sans souci de leur maître. Que de toute façon, ils ne pouvaient pas mettre à l'abri. Eh bien, lorsque Caïphe eut quitté la grande salle du tribunal pour entendre tout à côté ce qui s'est passé devant et de tous les cris qui se jetaient sur lui, les coups, une foule de misérables se jetèrent donc sur Jésus, toujours garrotté et lié de cordes avec des pointes, avec un acharnement de fauve, comme s'il voulait le tuer. Caïphe entendait tout cela et s'en réjouissait. Ses forcenés se livraient sur lui à des agissements qui n'avaient plus aucune limite. Et comme pendant toute l'audition des témoins, tous ces misérables qui s'étaient déjà si traîtreusement amusés et qui ne cessaient de le frapper pendant les interrogations de Caïphe, maintenant qu'ils étaient seuls, sans aucune retenue, une brutalité, ils lui arrachèrent les cheveux, la barbe. C'est là qu'il a, comme dit Marthe, presque la moitié de sa barbe, la moitié de ses cheveux étaient arrachés devant Caïphe. Et pendant ce temps, il le jugeait, il dit « Réponds !» Mais là, c'est ce qui en restait encore. Il lui arrachait la barbe, le frappait au visage et sur les lèvres avec les gants de fer. Pour écraser ses lèvres. Il le frappait au visage, il le couvrait de crachats pour être bien élevé. Il donnait des coups sur la tête et sur les épaules avec leur bâton rempli de ferraille et de pointes, le piquant avec des objets pointus, se ruant sur lui avec des ricanements affreux, se livrant sans honte ni respect à leur rage insensée et finalement sans limite. Comme des bêtes féroces, ils lui plaçaient sur la tête des couronnes de joncs auxquelles ils assujettissaient des lambeaux d'étoffe rouge ou de couleurs voyantes qu'ils faisaient ridiculement retomber sur ses épaules et qu'ils lui arrachaient ensuite en l'injuriant de façon atroce en faisant du zèle. Voilà le fils de David avec la couronne de son père sur la tête. Voici celui qui est plus grand que Salomon. C'est le roi qui fait son entrée dans le royaume de son père. Et en même temps, il lui arrachait la barbe. Et c'est ainsi qu'on continuait à se railler des grandes vérités éternelles, tandis que Caïphe s'en réjouissait, qui était là à quelques mètres pour tout entendre. Était-ce là le juge? Oui, c'est le juge qui doit être jugé. En disant ces paroles, en écoutant ses propos, en disant cela, on n'arrêtait pas de le frapper, de lui cracher au visage. Ce n'est pas la première fois, Seigneur, qu'on a donné à votre vie des couleurs fausses et qu'on a interprété si mal vos divines paroles. Dans les membres vivants de votre corps vivant, vous êtes présent en ceux qui viennent défigurer vos actions en eux. On incrimine votre attitude, ce qu'on fait avec le pape. On dénature votre belle doctrine. On la retourne. On voudrait frapper vos lèvres pour qu'elles ne puissent plus s'exprimer que par l'écrasement. Et vous le voulez, Seigneur, pour notre rédemption. loin de s'en tenir pour satisfaire les bourreaux trempèrent des morceaux d'étoffe dans une eau vaseuse et infecte. Oui, ça c'est pour être bien élevé qu'elle dit ça. Et oui, évidemment, les excréments. Et on lui en couvrait la bouche. On lui enlevait les couronnes de joncs l'immerger, pour y immerger sa tête. Et même si possible, l'enfoncer avec des bâtons, si c'était possible, ne voulant pas le toucher tant il était sale et repoussant. Et ils lui enlevèrent aussi sa robe et sa tunique, lui laissant pour tout sur le corps qu'une large ceinture de laine qu'il portait autour de lui, pas plus. Parce que, par une dernière folie, ils lui jetèrent sur les épaules un vieux manteau, tout sale et déchiré, qui lui couvrait à peine la moitié du corps, et qu'ils avaient roulé aussi dans la fange, des plus mauvaises pourritures et puanteurs. Et ils lui mirent ensuite une longue chaîne de fer attachée autour du cou, laquelle se terminait par deux lourds anneaux qui lui frappaient douloureusement les genoux à chaque pas, qu'ils faisaient lui lier encore les mains et qu'ils avaient déliés pour le dévêtir en les croisant sur sa poitrine, comme précédemment, et lui mirent un énorme bâton à nœud dans la main et ensuite... Il criait de bien tenir ce bâton s'il ne voulait pas qu'il s'en serve sur son dos, pour lui briser la colonne, et en vociférant ainsi de toutes sortes d'atrocités. Des spécialistes de la torture trouvaient de nouvelles cités à celui qui n'en mourrait pas, alors qu'il aurait dû y mourir des milliers de fois. Ils lui versèrent encore toute espèce de saleté et d'immondices dans ses beaux cheveux. Ils en recouvrirent même une partie supérieure du manteau, tout court, qu'il venait de lui mettre, de sorte que Jésus en était péniblement incommodé pour manifester ce qu'il en était, investi intérieurement comme un manteau. Enfin, quand ils se furent suffisamment amusé avec tout cela, il n'était toujours pas rassasié, ils lui bandèrent les yeux avec un répugnant morceau d'étoffe, et lui arrachant le bâton qu'il lui avait mis dans la main, il le frappait avec une violence, en lui hurlant, figure, grand prophète, dis-nous qui t'a frappé. Lui qui était revêtu d'un bandeau. Devant tous ces démoniaques insensés, fous, revêtu de l'incarnation de la folie de Lucifer, lui qui pouvait si facilement les réduire à l'impuissance, ou frapper d'un regard, pour les en arrêter immédiatement, Jésus gardait au contraire noblement le silence pour que la fureur des démons incarnés se jette plus intensément sur lui, jusque dans son intime, son intérieur, que la croix soit tout à fait profonde et atteigne la racine de tout lui-même avant qu'il ne fût crucifié. Et il priait là, dans ce fond. Pour ceux qui étaient ses persécuteurs, cette souffrance le faisait gémir, évidemment, mais les soupirs qui étaient les siens du plus profond de la joie d'y souffrir dans son cœur profond, illuminé par l'allégresse du salut du monde. Ce soupir au milieu de si atroce souffrance faisait couler de grosses larmes de ses yeux comme involontairement. Bienheureux, elle s'affligeait. L'Esprit Saint faisait produire de ses yeux ses larmes avec une abondance qui venait du Saint-Esprit et du fond de son cœur. Lorsqu'ils l'eurent mis dans ce pitoyable état, ils le traînèrent dans la salle où Caïphe s'était retiré avec son conseil et criaient de tous leurs poumons, il faut qu'il se montre au conseil avec les marques de la royauté qu'il a reçues de nous. Caïphe en fut grandement réconforté dans la soif et les désirs qu'il en avait de voir ces choses s'accomplir devant lui. Quand ils rentrèrent dans la salle, ce fut une véritable explosion de railleries les plus grossières et d'allusions sacrilèges aux choses les plus saintes. Que rien ne pouvait faire déchirer à l'intérieur de Jésus. Plus que cela, parce que son père y était. Aïe avec lui. Et ce qui procurait en lui, à cet instant, la plus grande souffrance. Comment tu oses te montrer en pareil état devant Caïphe, le grand prêtre? Tu veux toujours purifier les autres, alors tu ne peux pas être rendu pur toi-même, tout pourri que tu es. C'est plus pur excrément. Mais attends un peu, nous allons te nettoyer. Et il prenait devant Caïphe un vase rempli d'eau sale qu'un misérable était allé chercher. Je ne dirai pas où. Ils trempèrent un linge déjà affreusement malpropre. Ils le promenaient grossièrement sur le visage, les épaules et le cou, accompagnant leurs gestes de huées, de rires et de mauvaises plaisanteries qu'ils entremêlaient de compliments et de salutations les plus dérisoires tout en faisant semblant de le laver. Alors que c'était pour le corrompre davantage. Après quoi ils lui jetèrent à la face le reste de l'eau souillée, reçoit devant Caïphe. Ton onction précieuse, ton onction de roi, la voici. Voilà ton eau de nard, voilà ton myrrhe, le prix de 30 deniers. Voilà ton baptême dans la piscine de Bethsaïda. Après quoi, sans cesser de le frapper, et de l'accabler de leurs injures, et ils lui firent faire le tour de la salle, à la grande satisfaction de tous ceux qui étaient présents et qui profitaient encore cela à l'occasion de venir le frapper et de participer au plus proche de lui, à l'injurier, le couvrir de sarcasme et de gestes les plus déplaisants. Ce fut un moment vraiment d'horreur et d'abomination. Et même les soldats, voyez, au moment du couronne d'épines, n'ont pas été jusque-là. C'était le sommet, là. Cette salle me paraissait comme un centre ténébreux, de ténèbres vraiment substantielles. Un centre de désordre effrayant et vraiment lugubre, pendant que je voyais en même temps autour de l'auguste personne du Verbe, surtout depuis le moment où il avait dit qu'il était le Fils de Dieu, un rayonnement de lumière qui sortait de lui. C'est les deux en même temps. C'est dans ce contexte-là que dehors, Pierre a renié. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui t'abominent. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour ce scandale du monde. Délivre-les, l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui s'en enfuient loin de toi. Donne-leur. Trouver la sainteté, la communion, le sacrifice de l'hostie. Pour que ton royaume arrive, sauve-les, il en est encore temps. Très proche, l'heure est arrivée, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal.